Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, serviteurs et serviteurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission va commencer par le journal suivi du commentaire et l'histoire d'aujourd'hui.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à toutes et à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. Le président indonésien invite à renforcer l'unité lors de l'ouverture de la réunion de travail indonésien 2017 du représentant bouddhiste indonésien. Le forum de la jeunesse ancienne l'Union européenne comme un moyen d'interaction de trois parties prenantes dans leur secteur agricole. La Turquie va intensifier sa coopération avec l'Indonésie. La relation entre l'Indonésie et la République tchèque se développe toujours. L'Autriche est intéressée par la construction des infrastructures et maritimes en Indonésie. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. Le président Joko Widodo a officiellement ouvert la réunion de travail national 2017 du représentant bouddhiste indonésien ou Walubi à Jakarta International Expo Kemayoran Jakarta. Dans son discours, le président a invité tous les peuples à renforcer l'esprit de solidarité, de l'unité entre les différents éléments nationaux. Selon lui, l'esprit d'amour qui a été mis en œuvre horizontalement sera en mesure d'aider à construire la communauté. Le président a également déclaré que le même esprit a également été réalisé par le gouvernement. Selon lui, l'Indonésie en tant que grand pays pourrait être construite en évitant la désunion. Il a expliqué que l'Indonésie en tant que grand pays a un grand potentiel si le peuple pouvait s'unir. Le président a invité les bouddhistes indonésiens à participer au renforcement de l'unité, à la réduction de la pauvreté et à l'amélioration du bien-être de l'Indonésien.
Saya harap dari rapat kerja nasional Walubi.
Dans cette réunion, je m'attendais à gagner des programmes qui puissent renforcer la fraternité et l'unité. Notre le bouddhiste indonésien et le gouvernement pourraient réduire la pauvreté, l'inégalité et améliorer le bien-être de l'Indonésien. La réunion de travail national des représentants bouddhistes indonésiens au Rakernas Walubi en 2017 a été suivie par un certain nombre d'organisations religieuses bouddhistes de tout Indonésien. Murdaya Poi, président du Conseil de surveillance des représentants bouddhistes indonésiens, a déclaré que la réunion de travail national suivrait la réunion du Congrès national de Walubi qui s'est tenue en avril dernier. Certains programmes de travail qui seront discutés dans cette réunion, y compris la consolidation des publications bouddhistes centraux et régionaux des institutions bouddhistes pour améliorer l'harmonie dans la vie religieuse et la pratique du bouddhisme, dans le principe de la tolérance et de l'entraide entre les êtres humains. La deuxième journée du Forum de jeunesse de l'ASEAN et l'Union européenne, la participation des jeunes dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire et de la production a eu lieu le 26 octobre 2017. Il est une série d'activités qui a été organisée par l'ASEAN et l'Union européenne. La continuité des activités a été commencée par une visite de terrain à Sabisa Farm et l'échange de connaissances ou l'échange d'apprentissage à l'Institut d'agronomie de Bogor. Le chef de projet pour AFOSP, ou Programme d'appui à l'organisation des agriculteurs de l'ASEAN, dans la fondation de l'ASEAN en Indonésie, Yacinta Estiwulan Wahyu Jati, a déclaré que le programme était une continuation de l'échange d'apprentissage qui vise à unir trois parties prenantes telles que le gouvernement, le secteur privé et les acteurs agricoles.
Jadi acara ini sebetulnya sebagai lanjutan.
Cet événement est la continuation de l'échange d'apprentissage de notre événement en juillet et les discussions des tables rondes l'année dernière. Le thème que nous voulons apporter est l'interaction entre trois parties prenantes telles que le gouvernement, le secteur privé et la coopération agricole. Selon Yacinta Jati, l'orientation actuelle pour atteindre les objectifs est d'accroître l'intérêt des jeunes qui émettent très faible dans le secteur de l'agriculture et l'agro-industrie. L'échange d'apprentissage est un outil assez efficace pour ouvrir aux jeunes agriculteurs des pays de l'ASEAN d'exprimer leurs opinions et leurs politiques en utilisant leurs points de vue, leurs expériences et leurs idées. La République de Turquie attendait l'occasion de renforcer la coopération avec l'Indonésie. C'est ce qu'a déclaré l'ambassadeur de Turquie en Indonésie, Sander Gurbus, lors de son discours dans la célébration du 94e anniversaire de la proclamation de la République de Turquie à Jakarta jeudi. Selon l'ambassadeur Sander Gurbus, bien que de nouveaux programmes de coopération étaient mis en place par le gouvernement indonésien et le gouvernement turc en 2017, de nombreux autres potentiels restent à développer dans divers secteurs.
There is a great potential of improving our relations in the areas of trade, economy, investment, defense.
Il y a un grand potentiel d'amélioration de nos relations dans les domaines de commerce, de l'économie, de l'investissement, de l'industrie, de la défense, de l'énergie, de la construction, l'infrastructure et du tourisme. Je suis très confiant que les relations bilatérales entre la Turquie et l'Indonésie et l'ASEAN se développeront plus profondément dans les années à venir. Je voudrais remercier toutes les autorités indonésiennes, notamment le ministère des Affaires étrangères, pour avoir facilité nos travaux d'amélioration et de renforcement des relations entre les deux pays. Auparavant, l'ambassadeur de la République de Turquie pour l'Indonésie, Sander Gurbus, avait mentionné les principaux programmes bilatéraux entre l'Indonésie et la Turquie en 2017, à savoir la visite officielle du président indonésien Joko Widodo en Turquie en juillet, la 8e session de la Commission conjointe de coopération économique et technique en octobre, et la réunion bilatérale entre le vice-président indonésien Yusuf Kalla, la ministre des Affaires étrangères Madame Retno Marsudi et le président turc Recep Tayyip Erdogan lors du sommet du 18 à Istanbul en octobre. À la même occasion, l'ambassadeur Sander Gurbus a également annoncé que la Turquie allait bientôt ouvrir un centre culturel à Jakarta afin d'accroître le contact entre les peuples. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. L'ambassade de la République tchèque en Indonésie a célébré la Journée nationale tchèque à Jakarta mercredi. Dans son discours, le ministre indonésien de la Communication et de l'Informatique, M. Rudiantara, a rappelé les relations établies entre l'Indonésie et la République tchèque depuis les années 1950. Selon le ministre Rudiantara, les relations bilatérales entre les deux pays ont connu un développement positif marqué par le nombre de visites et réunions d'échanges de haut niveau. En outre, le ministre Rudiantara a déclaré que les liens entre les deux pays se renforcent dans divers secteurs. Les liens entre l'Indonésie et la République tchèque continuent de se renforcer et de se rapprocher. Les deux pays ont toutes les possibilités d'accroître la coopération mutuelle d'investissement, y compris dans le domaine de l'énergie, de la défense, des transports, du tourisme, de la jeunesse et de l'éducation. Le ministre Rudiantara a expliqué que la coopération entre l'Indonésie et la République tchèque était assez importante compte tenu du volume commercial bilatéral qui atteint 250 millions de dollars américains et 17 800 visites de touristes tchèques en 2016. Rudiantara espérait que la coopération entre les deux pays se développerait dans le secteur économique, mais aussi dans le contact social, touristique et interpersonnel. Les relations entre l'Indonésie et l'Autriche sont très bonnes et respectent mutuellement. Cette relation couvre plusieurs domaines tels que l'économie, l'investissement et le commerce. Il a été dit par l'ambassadeur d'Autriche en Indonésie, Ellen Steinhausel, récemment à la Voix de l'Indonésie à Jakarta, à l'ambassade d'Autriche Jakarta dans le cadre de la Journée nationale d'Autriche du 26 octobre. Selon Steinhausel, l'Autriche possède un grand intérêt à l'orientation du gouvernement du président Joko Widodo et du vice-président Yusuf Kala dans le développement maritime et infrastructure lié à la construction des infrastructures de transport, l'électricité et l'environnement. Nous avons une société de renommée mondiale engagée dans le domaine des énergies renouvelables, de la santé et opère également en Indonésie. L'Autriche a certainement un grand intérêt pour ce développement, un domaine important pour les entreprises autrichiennes en Indonésie et l'activité des projets traditionnels dans le développement des infrastructures de transport concernant l'électricité et l'environnement. Nous avons une grande entreprise et célébrée dans le monde dans le domaine de l'énergie renouvelable et la santé qui opère aussi en Indonésie. Selon l'ambassadeur, l'Indonésie est un partenaire important de l'Autriche parce que l'Indonésie, en tant que centre de l'ASEAN, possède un rôle important dans plusieurs domaines, notamment l'économie, la culture et la science. Concernant l'accord réalisé dans le forum de consultation bilatérale à Vienne l'année. Cette année, les deux pays ont appliqué dans le forum multilatéral concernant les négociations sur le maintien de la paix, le désarmement et le soutien mutuel dans les organisations internationales. Cet accord a également été réalisé dans le forum de discussion sur l'éradication du terrorisme, le dialogue interreligieux pour soutenir la politique et déradicalisation et l'éradication du terrorisme. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Chers auditeurs, voici donc le commentaire et pour le titre, le Myanmar est prêt à accepter le retour des réfugiés Rohingyas. La communauté internationale a entendu de bonnes nouvelles concernant le sort des ethnies Rakhines qui ont fui de leur ville natale. Des agences de presse et des médias du monde entier ont rapporté que le gouvernement du Myanmar était prêt à accepter les réfugiés Rohingyas. Les nouvelles proviennent d'une explication du gouvernement Bangladesh qui affirme que le Myanmar va arrêter l'afflux de réfugiés hors du pays vers le Bangladesh et disposé à les accepter. La déclaration a été rapportée sur la base de l'accord du gouvernement après des entretiens à Naypyidaw au Myanmar mardi dernier. Bien que les deux gouvernements se soient mis d'accord, il n'y a aucune confirmation sur quand et comment le processus va commencer. Le gouvernement du Myanmar fournit même des conditions avant que le processus de retour des réfugiés soit fait. Les autorités birmanes ont déclaré qu'elles devraient encore clarifier et identifier les réfugiés. Il semble que le gouvernement birman veut avoir l'assurance que parmi les centaines de Rohingyas qui retourneront à Rakhine, ils ne sont pas membres d'insurgés qui ont commis des actes de violence. Pour le Bangladesh, la tentative d'arrêter les réfugiés Rohingyas dans leur pays et de les renvoyer au Myanmar était urgente. Ce pays, qui est l'un des pays les plus pauvres d'Asie, a été profondément affecté par l'afflux de moins 600 000 réfugiés du Myanmar au Bangladesh. Le flux de l'aide provenant d'autres pays pour aider à surmonter les pénuries alimentaires et les installations minimales nécessaires pour les réfugiés ne fait pas que le Bangladesh se débarrasse du fardeau des réfugiés. Cependant, l'accord du Bangladesh et du Myanmar pour arrêter le flux de réfugiés et renvoyer les Rohingyas dans leur pays devrait être immédiatement mis en œuvre. Certains pays qui sont très concernés, y compris l'Indonésie, doivent encourager le processus à se réaliser immédiatement. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 27 octobre 1928, le deuxième congrès des jeunes à Jakarta a été commencé. Le premier congrès des jeunes s'est tenu à Batavia, Jakarta. Le premier congrès de la jeunesse a eu lieu du 30 avril jusqu'au 2 mai 1926. Le premier congrès de la jeunesse a été présidé par Muhammad Tabrani. Cette réunion a souligné l'importance de l'unité de la jeunesse dans un forum pour atteindre l'Indonésie indépendante. Le deuxième congrès de la jeunesse qui a eu lieu du 27 au 28 octobre 1928, dirigé par M. Sugondo Joyo Puspito de l'Association des étudiants de l'Indonésie, produit des décisions importantes qui sont désignées sous le nom Serment de la jeunesse. Dans ce congrès, l'Indonésie Raya, la création de M. Wage Rudolf Supratman a également fixé comme hymne national. Le 27 octobre 1945 a été créé le Bureau d'électricité et du gaz, alors commémoré comme Journée nationale de l'électricité. L'électricité en Indonésie a commencé à la fin du 19e siècle, lorsque plusieurs entreprises néerlandaises, y compris des usines de sucre et des usines de thé, ont établi des centrales électriques pour leur propre usage. Après la capitulation des Hollandais au Japon durant la Seconde Guerre mondiale, l'Indonésie était dominée par le Japon. Les compagnies d'électricité et de gaz ont également été reprises par le Japon et tout le personnel de la compagnie d'électricité a été repris par les Japonais. Avec la chute du Japon, la proclamation de l'indépendance indonésienne le 17 août 1945, une bonne occasion est utilisée par les jeunes et les travailleurs d'électricité et du gaz à prendre en charge des compagnies d'électricité et du gaz qui sont contrôlées par le Japon. Après avoir pris la compagnie d'électricité et du gaz du Japon en septembre 1945, une délégation de travailleurs et des employés d'électricité et du gaz ont rencontré le chef de la direction du Comité national indonésien central qui était dirigé par M. Kasman Singo Dimejo pour apporter des résultats de leur lutte. Ensuite, la délégation et le chef du Comité central national indonésien ont rencontré le président Sukarno afin de remettre les compagnies d'électricité et de gaz au gouvernement indonésien. La soumission a été reçue par le président Sukarno, puis avec la détermination du gouvernement du numéro 1 l'année 1945, a formé le Bureau d'électricité et de gaz le 27 octobre 1945 sous le ministère des Travaux publics et de l'Énergie. Le 22 octobre est commémoré comme Journée nationale de l'électricité. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Radio République Indonésia, service international, la Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, La Voix d'Indonésie présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésia, service international, La Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz. Le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'internet sur www.voi.co.id.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Chers auditeurs, c'est le temps maintenant pour nous de vous présenter la mise au point et pour le titre, le Parlement a légalisé le règlement gouvernemental remplaçant les lois au PERPO à devenir les lois. La séance plénière de l'Assemblée législative du peuple a finalement approuvé le projet de loi sur le règlement gouvernemental remplaçant les lois au PERPO à devenir les lois numéro 2 de 2017 sur l'organisation communautaire mardi le 24 octobre 2017. La ratification a été approuvée par un mécanisme de vote après l'effort de délibération pour le consensus n'est pas atteint. Le vice-président du Parlement, Fadli Zone, qui présidait la session plénière, a déclaré qu'il y avait 314 membres de 445 membres qui étaient d'accord. Ainsi, Fadli Zone a également frappé sur le marteau que le règlement gouvernemental remplaçant les lois au PERPO sur l'organisation communautaire ont accepté de devenir la loi. Le nombre d'organisations communautaires en Indonésie a maintenant atteint plus de 300 000 unités et a des activités dans tous les domaines de la vie à la fois au niveau national et régional. Mais à partir de ce nombre, le gouvernement a trouvé plusieurs organisations dont les activités contredisent l'état de base Pancasila et la Constitution 1945, menaçant ainsi potentiellement l'existence de la nation, a même conduit à des conflits dans la communauté. En relation avec ce phénomène, le gouvernement considère également que la loi numéro 17-2013 sur l'organisation communautaire inadéquate comme un endroit pour empêcher la diffusion de l'idéologie contre le Pancasila et la Constitution 1945, dans l'aspect substantif lié aux normes interdiction et sanctions ainsi que des procédures légales. Puis le gouvernement publie PERPO numéro 2-2017 sur l'organisation communautaire à la loi mardi le 24 octobre 2017. Le ministre de l'Intérieur, Cahyokumolo, qui représente le président Joko Widodo, a fermement nié que PERPO adopté à la loi va restreindre la liberté de s'organiser et de créer une organisation. Cahyokumolo a affirmé que la nouvelle loi d'Ormas est très urgente parce que le gouvernement voit et trouve des symptômes qu'il y a l'organisation communautaire dont les activités sont en conflit avec Pancasila et la Constitution 1945. Cahyokumolo apprécie également le travail dur du Parlement. La même appréciation a été donnée par le ministre coordinateur des affaires politiques, juridiques et de sécurité Wiranto. Selon Wiranto, il y a une unité pour maintenir l'idéologie de Pancasila parce que cette idéologie est un accord collectif de la nation depuis le premier. Chers auditeurs, c'était la mise au point de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Le président Joko Widodo a officiellement ouvert la réunion de travail national 2017 du représentant bouddhiste indonésien ou Walubi à Jakarta International Expo Kemayoran Jakarta. Dans son discours, le président a invité tous les peuples à renforcer l'esprit de solidarité, de l'unité entre les différents éléments nationaux. Selon lui, l'esprit d'amour qui a été mis en œuvre horizontalement sera en mesure d'aider à construire la communauté. Le président a également déclaré que le même esprit a également été réalisé par le gouvernement. Selon lui, l'Indonésie en tant que grand pays pourrait être construite en évitant la désunion. Il a expliqué que l'Indonésie en tant que grand pays a un grand potentiel si le peuple pouvait s'unir. Le président a invité les bouddhistes indonésiens à participer au renforcement de l'unité, à la réduction de la pauvreté et à l'amélioration du bien-être de l'Indonésien.
Saya harap dari rapat kerja nasional Walubi.
Dans cette réunion, je m'attendais à gagner des programmes qui puissent renforcer la fraternité et l'unité. Notre le bouddhiste indonésien et le gouvernement pourraient réduire la pauvreté inégalité et améliorer le bien-être de l'Indonésien. La réunion de travail national des représentants bouddhistes indonésiens au Rakernas Walubi en 2017 a été suivie par un certain nombre d'organisations religieuses bouddhistes de tout Indonésien. Murdaya Poi, président du conseil de surveillance des représentants bouddhistes indonésiens, a déclaré que la réunion de travail national suivrait la réunion du congrès national de Walubi qui s'est tenue en avril dernier. Certains programmes de travail qui seront discutés dans cette réunion, y compris la consolidation des publications bouddhistes centraux et régionaux des institutions bouddhistes pour améliorer l'harmonie dans la vie religieuse et la pratique du bouddhisme, dans le principe de la tolérance et de l'entraide entre les êtres humains. La deuxième journée du Forum de jeunesse de l'ASEAN et l'Union européenne, la participation des jeunes dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire et de la production a eu lieu le 26 octobre 2017. Il est une série d'activités qui a été organisée par l'ASEAN et l'Union européenne. La continuité des activités a été commencée par une visite de terrain à Sabisa Farm et l'échange de connaissances ou l'échange d'apprentissage à l'Institut d'agronomie de Bogor. Le chef de projet pour AFOSP, ou Programme d'appui à l'Organisation des agriculteurs de l'ASEAN dans la Fondation de l'ASEAN en Indonésie, Yacinta Estiwulan Wahyu Jati, a déclaré que le programme était une continuation de l'échange d'apprentissage qui vise à unir trois parties prenantes telles que le gouvernement, le secteur privé et les acteurs agricoles.
Jadi acara ini sebetulnya sebagai lanjutan.
Cet événement est la continuation de l'échange d'apprentissage de notre événement en juillet et les discussions des tables rondes l'année dernière. Le thème que nous voulons apporter est l'interaction entre trois parties prenantes telles que le gouvernement, le secteur privé et la coopération agricole. Selon Yacinta Jati, l'orientation actuelle pour atteindre les objectifs est d'accroître l'intérêt des jeunes qui émettent très faible dans le secteur de l'agriculture et l'agro-industrie. L'échange d'apprentissage est un outil assez efficace pour ouvrir aux jeunes agriculteurs des pays de l'ASEAN d'exprimer leurs opinions et leurs politiques en utilisant leurs points de vue, leurs expériences et leurs idées. La République de Turquie attendait l'occasion de renforcer la coopération avec l'Indonésie. C'est ce qu'a déclaré l'ambassadeur de Turquie en Indonésie, Sander Gurbus, lors de son discours dans la célébration du 94e anniversaire de la proclamation de la République de Turquie à Jakarta jeudi. Selon l'ambassadeur Sander Gurbus, bien que de nouveaux programmes de coopération été mis en place par le gouvernement indonésien et le gouvernement turc en 2017, de nombreux autres potentiels restent à développer dans divers secteurs.
There is a great potential of improving our relations in the areas of trade, economy, investment, defense.
Il y a un grand potentiel d'amélioration de nos relations dans les domaines de commerce, de l'économie, de l'investissement, de l'industrie, de la défense, de l'énergie, de la construction, l'infrastructure et du tourisme. Je suis très confiant que les relations bilatérales entre la Turquie et l'Indonésie et l'ASEAN se développeront plus profondément dans les années à venir. Je voudrais remercier toutes les autorités indonésiennes, notamment le ministère des Affaires étrangères, pour avoir facilité nos travaux d'amélioration et de renforcement des relations entre les deux pays. Auparavant, l'ambassadeur de la République de Turquie pour l'Indonésie, Sander Gurbus, avait mentionné les principaux programmes bilatéraux entre l'Indonésie et la Turquie en 2017, à savoir la visite officielle du président indonésien Joko Widodo en Turquie en juillet, la 8e session de la Commission conjointe de coopération économique et technique en octobre, et la réunion bilatérale entre le vice-président indonésien Yusuf Kalla, la ministre des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, et le président turc Recep Tayyip Erdogan lors du sommet du 18 à Istanbul en octobre. À la même occasion, l'ambassadeur Sander Gurbuz a également annoncé que la Turquie allait bientôt ouvrir un centre culturel à Jakarta afin d'accroître le contact entre les peuples. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. L'ambassade de la République tchèque en Indonésie a célébré la Journée nationale tchèque à Jakarta mercredi. Dans son discours, le ministre indonésien de la Communication et de l'Informatique, M. Rudiantara, a rappelé les relations établies entre l'Indonésie et la République tchèque depuis les années 1950. Selon le ministre Rudiantara, les relations bilatérales entre les deux pays ont connu un développement positif marqué par le nombre de visites et réunions d'échanges de haut niveau. En outre, le ministre Rudiantara a déclaré « Lien entre les deux pays se renforce dans divers secteurs ». Le lien entre l'Indonésie et la République tchèque continue de se renforcer et de se rapprocher. Les deux pays ont toutes les possibilités d'accroître la coopération mutuelle d'investissement, y compris dans le domaine de l'énergie, de la défense, des transports, du tourisme, de la jeunesse et de l'éducation. Le ministre Rudiantara a expliqué que la coopération entre l'Indonésie et la République tchèque était assez importante compte tenu du volume commercial bilatéral qui atteint 250 millions de dollars américains et 17 800 visites de touristes tchèques en 2016. Rudiantara espérait que la coopération entre les deux pays se développerait dans le secteur économique, mais aussi dans le contact social, touristique et interpersonnel. Les relations entre l'Indonésie et l'Autriche sont très bonnes et respectent mutuellement. Cette relation couvre plusieurs domaines tels que l'économie, l'investissement et le commerce. Il a été dit par l'ambassadeur d'Autriche en Indonésie, Ellen Steinhausel, récemment à la Voix de l'Indonésie à Jakarta, à l'ambassade d'Autriche Jakarta dans le cadre de la Journée nationale d'Autriche du 26 octobre. Selon Steinhausel, l'Autriche possède un grand intérêt à l'orientation du gouvernement du président Joko Widodo et du vice-président Yusuf Kala dans le développement maritime et infrastructure, lié à la construction des infrastructures de transport, l'électricité et l'environnement. Nous avons une société de renommée mondiale engagée dans le domaine des énergies renouvelables, de la santé et opère également en Indonésie. L'Autriche a certainement un grand intérêt pour ce développement. Un domaine important pour les entreprises autrichiennes en Indonésie est l'activité des projets traditionnels dans le développement des infrastructures de transport concernant l'électricité et l'environnement. Nous avons une grande entreprise et célébrée dans le monde dans le domaine de l'énergie renouvelable et la santé qui opère aussi en Indonésie. Selon l'ambassadeur, l'Indonésie est un partenaire important de l'Autriche parce que l'Indonésie, en tant que centre de l'ASEAN, possède un rôle important dans plusieurs domaines, notamment l'économie, la culture et la science. Concernant l'accord réalisé dans le forum de consultation bilatérale à Vienne l'année. Cette année, les deux pays ont appliqué dans le forum multilatéral concernant les négociations sur le maintien de la paix, le désarmement et le soutien mutuel dans les organisations internationales. Cet accord a également été réalisé dans le forum de discussion sur l'éradication du terrorisme, le dialogue interreligieux pour soutenir la politique et déradicalisation et l'éradication du terrorisme. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, encore merci de votre fidélité d'écouter la Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'est temps maintenant pour nous de vous présenter le magazine culturel et l'Indonésie en couleur.
variété, des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir, chers amis, c'est un plaisir de vous rencontrer à nouveau dans le magazine culturel, un programme quotidien sur le tourisme, l'alimentation ainsi que les arts et la culture de diverses régions en Indonésie. Dans l'édition aujourd'hui, je vais vous présenter la boisson de Jakarta, à savoir es goyang. Vous pouvez écouter nos émissions par www.voi.co.id ou bien par les zones courtes 9525. La mémoire est le morceau de l'histoire qui peut être se rappelé par les photos, l'objet, même la nourriture. Jakarta dans le passé possède les richesses culinaires variées. Malheureusement, beaucoup de nourritures typiques sont rarement trouvées ou bien disparues. Situ Babakan est l'un des sites touristiques à Jakarta et le centre culturel de Betawi qui a la mission de préserver toutes les richesses culinaire à Jakarta. L'un d'entre eux est es goyang ou la glace secouée. Quand le soleil commence à piquer, d'habitude on cherche quelque chose de froid, comme crème glacée. Cette boisson est très populaire dans le monde. En général, il existe deux formes. Il est consommé dans un récipient et il est également consommé avec des bâtons. En Indonésie, il y a la crème glacée au bâton traditionnel qui était très populaire appelée es goyang ou shake glacé. Presque tous les gens aiment cette crème glacée, y compris les touristes. La crème glacée est l'un des deux desserts glacés appartenant à la catégorie glace. Presque tous les gens aiment la crème glacée et il y a de différents types de crème glacée dans les différentes saveurs. Et aujourd'hui, vous pouvez profiter d'un traitement laitier congelé dans le coin à peu près tous les planètes. Le nom de la crème glacée est unique, es goyang ou la chèque de crème glacée, en raison de la façon de secouer dans un wagon de glace. Elle est fabriquée à partir de lait de coco, le sucre et l'arôme des ingrédients naturels tels que les fruits frais. C'est facile à faire, tous les matériaux sont mis ensemble, bien mélangés et cuits jusqu'à ébullition. Lorsque vous avez terminé, mettre la pâte dans un moule rectangulaire et ensuite le moule est inséré dans les boîtes contenant des éclats de glace. Comme son nom l'indique, cette crème glacée doit secouer pendant environ 5 minutes afin de geler plus rapidement. Et ensuite, le bâton de crème glacée est enfoncé dans le moule à glaçons. Es goyang possède des saveurs variées. Vous pouvez sélectionner les saveurs à votre goût. Il y a des fraises, l'avocat, le durian, le jacques, le chocolat, le riz gluant noir et les haricots verts. Les goûts plus délicieux si on ajoute du chocolat avec une pincée de cacahuète. Vous pouvez demander au vendeur et il va tremper la glace dans le chocolat liquide. Bien sûr, le prix de la glace étant sa poudre de cacahuète grillée est plus cher que le prix normal. Au aujourd'hui n'est pas facile de trouver la glace au bâton traditionnel. Cependant, il y a quelques endroits à Jakarta où vous pourrez rencontrer les vendeurs de cette glace, entre autres dans la vieille ville de Jakarta et Pasar Baru. Là-bas, ils sont les vendeurs ambulants. Le prix n'est pas cher, environ 3000 rupiah. Mais si vous demandez de chocolat supplémentaire avec une pincée de cacahuète, le prix est 5000 rupiah. Chers amis, c'était le magazine culturel de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Les couleurs, un programme sur les informations actuelles.
Bonsoir, chers auditeurs et serviteurs de quatre coins du monde. Voici l'Indonésie en couleur. Et pour le titre, la culture de la boisson de cacao dans la région de Kerinci. Serviteurs, la terre de Kerinci dans la province de Jambi stocke diverses cultures uniques qui n'existent pas dans d'autres régions. L'une d'elles est la boisson traditionnelle de feuilles de café appelée cacao. Le café a été trouvé d'abord en Éthiopie, puis il a été développé au Moyen-Orient et est devenu une boisson royale européenne autrefois. Le caféier est venu pour la première fois en Indonésie, a été porté par les Hollandais. L'une des régions indonésiennes est la résidence de Kerinci en province du Jambi, qui est célèbre avec son produit de café. Le café Kerinci, notamment Robusta, a grandi sur la zone de plantation du peuple sur les hautes terres tropicales. La plantation de café se trouve sur les 1000 à 1500 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le caféier est identique à ses fruits rouges et atteint environ 5 ans à 2 mètres de haut. Pendant la période coloniale, le goût agréable de café ne peut être apprécié par les agriculteurs Kerinci parce que toutes les récoltes ont été prises par les Néerlandais et vendues à l'Europe. Mais les agriculteurs ont toujours moyen de profiter du café. Les jeunes feuilles de café considérées comme des déchets sont utilisées pour les agriculteurs pour fabriquer du café. Les feuilles sont coupées en petits morceaux, ensuite ils sont mis sous le soleil jusqu'à ce que la couleur change en noir. Ensuite, ils sont mis dans l'eau bouillante. Les populations locales l'appellent café cacao ou extrait de feuilles de café. Boire l'extrait de feuilles de café devient une habitude pour les agriculteurs parce qu'il a différents types de saveurs et de goûts. Normalement, les agriculteurs le boivent sans rien ajouter, mais certains agriculteurs y ajoutent de la cassonade. La chose unique est que les agriculteurs ont utilisé pour boire du café sur la coquille de noix de coco appelée sayak. Pendant ce temps, le récipient d'eau est fait de bambou appelé tagek. Pour avoir une saveur maximale, l'extrait de cacao doit être mis dans le pot ouvert pour une nuit. Ainsi, la vapeur aura une synergie avec le cacao. Serviteurs, aujourd'hui, Kerinci n'est pas le seul endroit où vous pouvez profiter de cacao, parce que dans l'ouest de Sumatra et Lampung, ils boivent également la boisson de cacao. Payakumbu, dans l'ouest de Sumatra, la boisson de cacao devient une bonne offre d'affaires. Le restaurant et les propriétaires de café innovent cacao avec d'autres mélanges comme cannelle, du lait, du citron, du gingembre et d'autres. Les jeunes générations et les touristes aiment cette boisson traditionnelle et gagnent une nouvelle source pour les hommes d'affaires de cette boisson. Serviteurs, c'est l'Indonésie encore pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Chers auditeurs, nous finissons notre programme avec le magazine musical.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique musicale. Dans cette édition, je vais vous présenter des chansons régionales de Papouasie. Bon, pour commencer notre rencontre aujourd'hui, écoutons une chanson intitulée « À pousser », chantée par Fika S. Bonne écoute.
Arafami,
Jérémy, voilà la chanson intitulée « À pousser » chantée par FKS. Cette chanson mélodieuse, passionnante, donc le thème est la séparation. Cette chanson parle d'un petit-fils qui a dit au revoir à ses grands-pères d'aller à la baie d'Oreri. Comme dans une parole « À pousser Kokondao, Yarabe Soren Doreri » qui signifie « Grand-père, grand-mère, je dis au revoir à aller à la campagne de l'autre côté qui est nommé Doreri. » Doreri est le nom du lac en Papouasie qui était très populaire en Papouasie comme l'entrée de Manokwari en Papouasie occidentale. La dernière partie de cette chanson parle de la réponse du grand-père et du grand-mère qui a béni le départ de son petit-fils. L'arrangement de la chanson « À pousser » a été adopté par les fans de football, devenant un appel de soutien pour un club de football soutenant. Non seulement « À pousser », il y a une autre chanson de Papouasie, donc les paroles ne sont pas aussi heureuses que son arrangement. La chanson de Yamko Rambeyamko raconte de la tristesse de la guerre, soit de la guerre entre les tribus, soit la guerre contre les envahisseurs, comme par exemple dans la parole du refrain Honke 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 Riro Honke Jambe Jambe Riro. Il s'agit de la fleur de la nation se développe dans le jardin du héros. La fleur de la nation dans les paroles signifie les héros qui sont prêts à sacrifier afin de défendre le pays contre les envahisseurs. Bon, chers amis, maintenant, nous allons vous présenter une chanson intitulée « Yamko Rame Yamko » chantée par Martin Mailoua.
Thank you.
C'était notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie. Présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4 et 5, Jakarta, ou PO Box 1157, Jakarta 1011, Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter, Voi Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.